bonjour.
Bonjour.
Vous êtes bien bonjour. Sur Solidaire d'abord, cette émission sur Fréquence 7, où nous essayons de décoder ce que ne décode pas la presse mainstream. Donc aujourd'hui, on va parler encore des retraites. Forcément, on va en parler un peu encore, parce que le combat est loin d'être fini. Et on va parler aussi d'un scandale d'État, qui dure depuis 20 ans par rapport à EDF, hein, sur ce qui s'est passé. Alors, cette histoire d'EDF est très longue, et il faudrait remonter à 1945, au moment où elle se crée, pour pouvoir décoder tout ce qui se passe par rapport à EDF. Et puis, évidemment, il faut réactualiser le quiz de Denis. Alors, est-ce que vous vous souvenez du quiz? Est-ce que, Denis, tu peux nous rafraîchir la mémoire?
Oui, alors, voilà, c'est le quiz. Alors, le 1, je me présente sous plusieurs formes. 2, j'ai au moins deux couleurs de base. 3, je suis présent dans l'alimentation. 4, je suis issu principalement de deux végétaux. 5, je peux être un ami comme un ennemi. Qui suis-je? Réponse à la fin.
Donc pendant qu'on est en train de régler tout le reste de l'émission, c'est-à-dire des choses complètement anodines par rapport à ce quiz magnifique, vous pouvez réfléchir. Voilà. Alors la première chose, c'est sur actualiser ce qui s'est passé sur les retraites. La première chose, c'est qu'on a vu que Macron 2 est beaucoup plus ouvert que Macron 1. La preuve, par exemple, quand on a eu la première réforme des retraites à point, là, souvenez-vous, il y a eu 5 mois de débat à l'Assemblée nationale. Ouverture magnifique du deuxième quinquennat de Macron, cette fois-ci, deuxième réforme des retraites, 10 jours à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, la discussion est vachement plus ouverte, quoi. Avec le 47-1 au-dessus, là, ils ont comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête, et en fait, que 10 jours de débat au lieu de 5 mois. Et oui, c'est Macron 2, c'est beaucoup plus ouvert.
Oui. Alors, ouais. Oui, surtout que la première fois, on a échappé mal, parce qu'il avait mis le 49-3 chez Édouard Philippe. Mais bon, on a eu le Covid qui nous a sauvés momentanément. Mais voilà, nous voilà repartis. Alors, plus avec Delevoye, parce que Delevoye, il a eu une super casserole.
Oui.
Mais maintenant, c'est notre voisin d'Annonay, c'est du SOP.
Oui, mais
quelle casserole aussi, d'ailleurs.
En fait, Delevoye avait déjà plein de casseroles. C'est-à-dire qu'on a vu qu'il est, d'une part, il avait mis la main dans le pot de confiture déjà à plusieurs moments. Et puis, en plus, il racontait des cracks. Mais il continuait à raconter des cracks, c'est toujours les mêmes. Cette fois-ci, on avait quand même soi-disant, cette avancée extraordinaire des 1200 euros, tu sais. Oui. Tout le monde, 2 millions de personnes qui allaient avoir accès à 1200 euros. Et puis petit à petit, ça s'est réduit comme peau de chagrin, et on se retrouve avec peut-être 15 000 personnes qui seraient.
Oui.
Et ces 15 000 personnes, s'ils avaient ces 1200 euros, c'est qu'en fait, ils seraient presque 1200 euros, et ça jouerait entre 30 et 50 euros sur leur, sur leur retraite. C'est-à-dire, c'est des gens qui seraient à 1170 et qui passeraient à 1200, quoi.
Oh oui, c'est
une avancée majeure.
Oh oui, c'est minime.
Voilà. Et donc, ouais, alors, et donc, ils ont été obligés de revoir ça. Et même Dussopt est parti la queue entre les jambes, hein, à plusieurs moments, parce qu'il s'est fait bâcher, hein, par rapport à ça. Hein. C'est quand même super menteur, là. Hein.
Ça a été très, très tendu à l'Assemblée nationale.
Très, très tendu, ouais. Et puis, il n'y a pas que ça. Hein, c'est que ces mensonges qu'on a un petit peu à tous les étages, alors, ça fait penser à ce qui s'appelle la novlangue. Alors, par rapport à la novlangue, on avait un petit élément sonore que tu as voulu qu'on mette, Amalia. Donc, c'est ce que nous dit M. Ruffin.
Un discours qui est extrêmement chloroformé. Vous savez, c'est même plus la langue de bois, parce que le bois, c'est quelque chose, on peut se taper dessus, on peut se heurter à ça. Aujourd'hui, c'est la langue de coton. On nous met de l'éther, on nous endort, on nous dit compromis, dialogue, accord, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça se répète, vous avez un étalage de formules creuses pendant une heure et demie. Et en vérité, derrière ça, il y a une grande violence des décisions. Donc évidemment, c'est enrobé comme il faut, mais au fond, derrière les décisions qui sont énoncées par Elisabeth Borne, sont des décisions d'une grande injustice.
Et voilà. Oui, ben oui, parce que en fait, le gouvernement utilise la langue comme une véritable arme, en la détournant, en l'édulcorant de diverses façons. Et on se souvient par exemple de l'inénarrable croissance négative, ou enfin voilà. Et moi, je vous conseille vivement des vidéos qui datent, qui commencent à dater déjà, mais qui sont toujours d'actualité, de Franck Lepage qui fait des conférences gesticulées et qui organisait à l'époque des stages de désintoxication de la langue de bois. Et là, très récemment, c'est François Bégodeau qui a sorti un livre sur le sujet où il essaie de démonter un peu tous les mécanismes justement de ce détournement de la langue, parce que le détournement de la langue, ça permet aux gouvernants de manipuler la population. Et voilà. Et donc, à travers une quarantaine de mots, il traite ça avec beaucoup d'humour, il démonte un peu ses mécanismes et il essaie de mettre à jour les véritables intentions des personnes qui les utilisent. Voilà, ça s'appelle Boniment de François Bégodeau et sur la couverture on voit un magnifique pipeau.
Merci Amalia. Voilà. Et donc ouais, il y avait une émission cette semaine le 16 février sur la 5 qui s'appelle cette émission s'appelle C'est ce soir, c'était à 22h45. Il y avait Michaël Zemmour entre autres, il y avait Gérard Miller et il y avait un mec du gouvernement qui s'appelle Guillaume Kasbarian. Et donc ce mec-là, c'était complètement fou, la langue de bois poussée à ce niveau-là, quoi. T'avais les gens qui étaient en train de lui dire « il y a un problème », il regardait les gens avec un grand sourire en train de dire « oui, tout va bien ». C'était ahurissant. Et donc il y avait Gérard Miller qui à un moment a pété un câble, mais c'était tellement invraisemblable que voilà, c'était fou. Donc dans le cadre de cette novlangue, hein, par exemple, ou de cette façon de convertir un discours en essayant de le rendre positif alors que c'est pas vrai, par exemple, le MEDEF nous parle de plan de sauvegarde de l'emploi quand ils veulent faire un licenciement, tu vois.
Tout à fait.
C'est vachement bien comme truc. Et puis souvenons-nous quand même, maintenant on parle de collaborateurs. Moi je suis désolé, mais moi je serai jamais le collaborateur de personne. J'ai pas envie d'être un collaborateur. Hein. J'ai pas, si vous avez envie d'être collabo, mais moi je suis pas collabo. Quoi.
Tellement de mots comme ça.
Voilà. Ouais. Quand même là, la connotation nazie en plus. Ouais, hein. Ouais. Et puis ça a été vu parce que en fait ce gouvernement, cette novlangue libérale, elle prend plein de choses sur les conceptions économiques du nazisme. Hein. C'est pas un hasard, hein. c'est pas rien.
Et ça empêche de penser, ça empêche réellement de penser. Quand un mot est détourné comme ça, ça empêche de réfléchir.
Voilà. Et ça fait forcément penser au livre de 1984 de George Orwell, où quand même, à un moment, on se retrouve avec des trucs complètement ahurissants, où en fait, on se retrouve avec la paix, c'est la guerre, ou bien la liberté, c'est l'esclavage, ça va jusque-là. C'est-à-dire, on vous explique que finalement, être esclave, ce n'est plus du tout avoir des choix à faire, donc en fait, c'est la liberté, quoi.
Oui, hein, c'est...
Voilà. Hein, bon, aussi la façon dont on nous parle des ressources humaines. Hein, tu sais, dans les entreprises, t'as le bureau des ressources humaines. Avant, on appelait ça presque le bureau des licenciements. Hein. Oui. Maintenant, ils appellent ça les ressources humaines. C'est joli. Voilà. Et tout est comme ça, un peu travesti. Et
quand on parle de compétitivité, Bruno Le Maire et sa compétitivité. Ah. Oui, mais compétitivité, ça ne veut pas dire prendre des machines plus performantes ou améliorer les conditions de travail. Compétitivité, ça veut dire les actionnaires qui aient un peu plus d'argent encore à la fin.
Voilà.
C'est ça la compétitivité dans le libéral.
Et la retraite n'amène pas de compétitivité, donc non. Il faut la réformer. Voilà. Parce que cette réforme, cette retraite par répartition, elle n'a rien à voir avec la retraite à capitalisation. Ouais. Et ils voudraient, eux, qu'il puisse y avoir du fric et qu'il puisse y avoir des dividendes dans tout ça, bien sûr. Ouais. Oui, je t'ai coupé.
Oui, des perles comme ça, plan de sauvegarde de l'emploi, par exemple, ouais, ou voilà, ouais, des choses comme ça.
Ouais. Alors, c'est vrai qu'on s'est retrouvé avec ce débat entre presque d'un côté les syndicats et de l'autre côté les politiques, dans la quinzaine qui vient de se passer, où en fait, certains syndicats auraient voulu que se discute à l'Assemblée l'article 7. Mais je ne sais pas si ça aurait eu un grand intérêt, parce que de toute façon, le truc est plié, ils veulent pas en discuter, de revenir sur l'âge ou quoi que ce soit. Donc je ne sais pas si ça aurait amené... grand chose. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Ben, c'est le Conseil constitutionnel qui risque de le sanctionner. Oui. Si ce n'est pas voté au Parlement comme ça n'a pas été, ça risque le Fabius risque d'être obligé de se réveiller, ouais, et de bosser un peu pour savoir si c'est légitime ou pas.
Et au passage, on voit que les médias traditionnels fustigent tout ce qui est de la NUP et particulièrement de LFI, parce que, entre autres, Laurent Berger a dit bah, pas discuter de l'article 7, c'est pas bien, quoi. Donc si vous déposez tous ces amendements, on ne pourra pas discuter de l'article 7. Mais est-ce que ça valait le coup ? Enfin voilà, c'est une vraie question, je ne sais pas.
C'est une vraie question, ouais.
En tout cas, surtout avec le 47.1, bah, c'est sûr qu'on ne pouvait pas discuter de l'article 7, quoi. C'est surtout parce qu'il y a le 47.1, il faudrait quand même appeler un chat, hein, et c'est parce qu'il n'y a pas 5 mois de débat à l'Assemblée nationale que les articles ne peuvent pas se discuter. C'est pas parce qu'à un moment, il y a beaucoup d'amendements de protestation contre cette loi injuste que... Voilà.
Non, il n'y en avait pas plus que d'habitude. Les amendements, il y en avait 20 000, voilà, pour mais c'était pas non plus, il y avait des fois beaucoup plus. Après, c'est un coup de poker, à mon avis. L'LFI a fait un coup de poker sur le. Peut-être en pensant que le Conseil constitutionnel allait retoquer, ouais. Que. Je sais pas, on verra. C'est à suivre.
Alors, on a vu aussi Aurélien Pradier, alors quand même un mec de LR, hein, quand même, qui se fait tacler par Ciotti, qui finalement même le démissionne, hein, puisque Aurélien Pradier était numéro 2 des députés LR. Hein, et Ciotti, il a démissionné parce que bah, il a trouvé que c'était pas intéressant ce qu'il disait, puisque Aurélien Pradier demandait à ce que les gens qui font des carrières longues n'est pas plus de 43 ans de cotisation à assurer. Ouais. Et alors, de fait, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond que juste cette apparence-là. C'est-à-dire que Aurélien Pradier, il représente les élus de terrain. Parce que imaginez, vous avez 60 ans et puis vous allez bientôt à la retraite, vous voyez que LR est en train d'abonder sur le fait qu'il faut avoir toutes les annuités, etc. Et vous allez saisir vos députés de proximité. Par exemple, nous, on pourrait aller voir M. Brun, voilà, qui est LR, hein, et lui dire, bon, dis Coco, moi j'ai pas envie de crever avant d'avoir la retraite. Parce qu'on a dit qu'il y en avait qui avaient appelé assassin ceux qui repoussaient l'âge de la retraite plus loin, ça a fait un scandale, mais c'est des vrais assassins, c'est vrai, quoi. Il y a des gens qui ont 60 ans qui n'auront jamais la retraite, l'auront jamais.
Un Français sur 4 n'arrive pas à 62 ans.
Ouais, c'est ça. C'est un scandale.
30% n'arriveront pas à 64 ans. Donc 30% des Français, enfin 25% actuellement, n'arrivent pas à la retraite.
Voilà. Et c'est comme par hasard tous les gens qui sont des couches vraiment très populaires. Voilà. Hein, c'est pas les autres. Donc voilà. Il y a un vrai débat là-dessus quand même. C'était ouvert. Et alors donc, les élus de terrain, bah, ils sont d'accord avec Aurélien Pradier. Même ceux qui sont LR. Ils sont pas d'accord avec Chiotti.
Oui, non, bien sûr. Il y en a 32 qui ont voté l'autre fois pour le contre la loi là qu'ils avaient fait pour les 1 200 €. Donc oui, bien sûr, il y en a qui sont contre. Ils sont pas, peut-être qu'ils veulent renouveler leur mandat, hein.
Alors quand on dit qu'on est contre cette réforme, ça veut pas dire qu'il y a pas des solutions. Il y a plein de solutions qui pourraient être envisagées, hein. Taxer les milliardaires, remettre l'ISF par exemple, il y a pas que ça.
Payer les femmes de la même par façon
exemple,
que les hommes,
par exemple. Taxer les dividendes. Ça serait quand
ouais,
même.
Remettre l'ISF.
Voilà,
on a
minimum.
Plein d'idées, c'est vrai.
Taxer les transactions financières, taxer les machines, puis qui petit à petit remplacent les ouvriers. Enfin, plein de choses qui seraient possibles.
Oui, ouais. Et faire la chasse aux évasions fiscales, aux paradis fiscaux même.
Puisqu'on produit, chaque individu produit 40 fois plus. Qu'au début du XXe siècle, pardon. 40 fois plus. Donc, en fait, c'est pas un problème de sous. C'est pas un problème de...
Mais le corps, il dit, l'autre fois, il y avait le responsable du corps, là, qui était au Sénat, oui. Il annonçait bien la couleur. Il dit, mais le pourcentage de pour les retraites sur le PIB n'évolue pas.
Oui.
C'est toujours au même taux. Oui. Donc, maintenant, comme dans 5 ans, comme dans 10 ans, le taux de prélèvement est toujours le même. C'est des choix, après. C'est des choix politiques.
Voilà, c'est des choix politiques. Alors voilà, on a un peu fini sur ce sujet. On est allé un petit peu vite parce qu'on en avait un autre qu'il faut qu'on développe, c'est sur EDF. Alors là, je te laisse, Amalia, parler un petit peu d'EDF. Peut-être l'historique, je ne sais pas. Si
oui, ben, en fait, ce qu'on voudrait un peu décrire, c'est pourquoi on en arrive à des tarifs tels qu'on les connaît aujourd'hui. Et pour bien comprendre ça, pour bien comprendre tout le cheminement, en fait, il faut partir du début. Donc au début, le début d'EDF, c'est 1945, après la Seconde Guerre mondiale. Le pays est à reconstruire et on considère que l'énergie, c'est quelque chose de éminemment stratégique. Ça l'est toujours aujourd'hui. Je pense que ça, il faut vraiment qu'on le garde en tête. L'énergie, c'est vraiment un élément éminemment stratégique dans le pays. Donc en 1945, le gouvernement décide de créer EDF et donne le monopole à l'entreprise. Et donc EDF, il faut bien comprendre que c'est trois entités. Donc il y a la production, il y a le transport et ensuite il y a la distribution. Le transport et la distribution sont les réseaux. Ça marche comme les routes en fait. Le transport, sont les grandes autoroutes, les lignes à haute tension. Et la distribution, les petites routes qui viennent jusqu'à la maison. C'est la distribution. Pour calculer les tarifs qu'on facture à ce moment-là, on disait aux abonnés, on ne disait pas aux clients.
Oui, aux abonnés.
Et ça, c'est une nuance importante. Donc, on se base sur les coûts de production et avec un souci de péréquation, c'est-à-dire deux personnes qui ont le même profil, où qu'elles soient en France, ont le même tarif.
Voilà. Liberté, égalité, il y a marqué.
Égalité, tout à fait. Et puis l'Europe arrive et on va vous passer tous les détails, mais donc l'Europe arrive avec son credo de ultra-libéral, de concurrence libre et non faussée. Et là, on va se faire un grand, grand saut et on va arriver en 2010.
Oui, même en 2000 d'abord, parce que c'est Jospin qui nous introduit fortement, je veux dire, par tous les moyens possibles, cette notion-là de concurrence. Et en 2004, il commence à y avoir l'ouverture au marché.
L'ouverture au marché. Et en 2010, la loi NOM. La loi NOM qui se décline dans un procès.
Alors, loi NOM, qu'est-ce que ça veut dire NOM ? Alors, nouvelle organisation du marché de l'électricité.
Voilà. Donc, on met en place, appliquer la loi NOM, on met en place l'AREN. Alors, l'AREN...
Alors, c'est un dispositif, l'AREN. Alors, l'AREN qui s'appelle l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique et qui est donc ouverte à des opérateurs. Alors, les opérateurs en question, là, une façon de les appeler, toi.
Alors, on appelle ça le mot officiel, c'est les fournisseurs. En fait, ces fournisseurs, qu'est-ce que c'est ? C'est des gens qui ne produisent pas, qui ne transportent pas, qui ne font rien, en fait, que d'être des traders. Ce sont des traders qui achètent l'électricité sur les marchés et les revendent. En fait, eux, leur travail, c'est de mettre leur tampon sur une facture. C'est tout. Alors, en quoi consiste l'AREN ? Quelqu'un veut peut-être prendre...
Donc AREN et NOM, en fait, ont conditionné une façon de redistribuer l'électricité à l'intérieur de ce marché complexe où il y a ces nouveaux opérateurs qui apparaissent. Et donc, la loi NOM, elle devait s'appliquer entre 2010 et 2025. Donc, elle a un terme en 2025. Et qu'est-ce qui devait se passer entre 2010 et 2025 ? Dans les 15 ans, les opérateurs devaient petit à petit réinvestir, puisqu'on leur ouvrait un quart du marché d'EDF qui était vendu à 42 euros, alors avec un chiffre qui était fixé complètement de façon...
Au doigt mouillé.
Ouais, au doigt mouillé. Et donc on disait, maintenant le mégawattheure va te coûter tel prix, on a fixé le tarif, et donc les opérateurs pourront l'acheter et le revendre, comme tu disais, des traders là, sur le marché. Hein, voilà. Et donc ça représentait le quart de la production d'EDF.
Voilà, et 100 TWh.
Voilà. Et pendant 15 ans, on va leur ouvrir complètement ce marché-là de cette façon-là, sans aucune condition. Et la seule condition aussi, quand même, qui était un petit peu derrière tout ça, c'était qu'eux devaient profiter de ces 15 ans pour petit à petit se mettre à produire eux aussi. Hein, et donc investir l'argent qu'ils gagnaient pour produire.
Mais en plus, il y a eu beaucoup d'aide. L'État a fait beaucoup d'aide pour le photovoltaïque et les éoliennes. Donc, non seulement ils ont profité de ces subventions, mais juste quand il y avait des subventions. Quand il n'y avait pas de subventions, quand il n'y avait pas assez, ils s'y sont parlé. Donc, ils ont empoché les sous, une fois en vendant l'électricité, deuxième fois avec les subventions. Mais ils n'ont pas joué le jeu, ils sont loin d'être autonomes. C'est bien pour ça que maintenant, là, avec 2025 qui approche, le gouvernement voulait passer à privatiser l'EDF.
Alors, dans une vidéo que tu nous avais suggéré de regarder, Denis, hein, qui s'appelle le Bourbon de Serge, avec un député PS qui s'appelle Philippe Brun et un sénateur PC qui s'appelle Fabien Gay, on nous explique un petit peu tout ça. Donc moi, je vous conseille d'aller voir sur Internet. Hein, vous tapez Bourbon de Serge et puis EDF, vous allez trouver, hein, sans problème. Et il nous explique les arnaques. Donc la première arnaque, c'est cette histoire de 42 euros, où imaginez quand même une entreprise qui produit un truc, on les oblige à vendre à prix le plus bas possible quelque chose, qu'après on va faire concurrence. Donc c'est un peu délirant comme truc.
En plus, à une époque, 42 euros, c'était pratiquement le prix qu'on pouvait trouver sur le marché.
Voilà.
Et des fois, c'est moins cher. Mais, donc les concurrents d'EDF n'étaient pas obligés d'acheter EDF. EDF était obligé de leur vendre, mais eux, ils n'étaient pas obligés d'acheter.
Mais en fait, il y a trois arnaques successives, les unes sur les qui s'emboîtent les sur les autres. Parce que donc, il y a une deuxième arnaque, c'est que à un moment, ces entreprises avaient la possibilité, en fait, d'utiliser ce qu'ils appellent le principe de contestabilité, parce que comme ils vendaient un petit peu plus cher, parce que là, il y a la crise énergétique qui est arrivée, donc ils ont commencé à monter les prix. Et puis ils se sont retrouvés plus compétitifs par rapport à EDF. Donc ils ont obligé EDF à augmenter ses tarifs pour rester compétitifs. Donc c'est la deuxième arnaque. Et puis la troisième arnaque, c'est le bouclier tarifaire que nous a foutu Bruno Le Maire, qui coûte quand même 100 milliards sur 2 ans, pour arriver à permettre, entre autres, aux boulangers, ce qui est très bien, hein, de pouvoir continuer à acheter l'électricité sans que ça soit complètement délirant. Et donc, ils ont obligé, quelque part, ces opérateurs à baisser les prix à 280 euros le mégawattheure. Mais tout ça, ça s'est passé évidemment avec de l'argent public qu'on refile. Et donc, en fait, c'est un petit peu comme si le public finançait EDF, puis ensuite finançait les opérateurs qui trahissent EDF, qui en plus oblige EDF, enfin voilà, c'est une arnaque à tous les étages et c'est une triple arnaque. C'est scandaleux, c'est scandaleux.
C'est sidérant en fait, c'est sidérant. Et
vive le libéralisme.
Voilà, parce qu'à la base, le dogme, c'est je trouve plus mes mots. À la base, on libère le marché pour que ce soit plus efficace et moins cher. Et finalement, on part d'un système qui était très simple, très efficace et bon marché. Et on se retrouve au final avec une usine à gaz qui a coûté énormément d'argent à l'État et surtout aux clients. Ouais. Voilà,
c'est exactement comme pour les autoroutes. On a acheté les autoroutes. Maintenant, c'est des opérateurs comme Vinci, etc., qui utilisent les autoroutes et qui nous font payer le péage. Et on le paye plusieurs fois, ce que l'on a déjà payé. Mais on est au quiz. Il faut qu'on finisse ce quiz.
Mais ça va être juste. Bon, alors, le quiz, c'était le sucre. Donc voilà, le sucre, c'est lui notre ennemi et notre ami. Donc ben, l'excès de sucre, alors je vais vous citer tout ce que ça peut vous amener. L'excès de sucre alors favorise le surpoids et l'obésité, augmente le risque de diabète de type 2, favorise le vieillissement prématuré de nos cellules, nous expose davantage aux maladies cardiovasculaires, augmente le risque de maladies du foie gras, perturbe notre flore intestinale, favorise l'overdose et la dématérialisation de l'organisme, augmente la fatigue chronique et l'affaiblissement physique, peut favoriser l'hyperactivité chez certains individus et augmente le risque de cancer. Donc attention au sucre.
Attention au sucre, voilà. Et on a des publicités à tous les étages qui nous expliquent que c'est vachement bien.
Ah oui. Et je peux rajouter, le sucre, c'est 1 200 000 morts en Europe par an. Ouais. Donc, et chaque année. On nous a fait tout un pataquès avec le Covid, mais alors le sucre, c'est autre chose.
Bon, à bientôt, bon courage.
Allez, au revoir.
Au revoir.
Au revoir.